Ah, vous l'avez entendu, la sirène, hein, c'est celle qui annonce le verdissement prochain de vos oreilles sur CFM Radio. C'est chronique plante et histoire de plante maintenant avec Rémi Kulik du Jardin des Merveilles, c'est à Vaour. Bonjour Rémi.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors, au menu aujourd'hui, on va parler de principes et on va dire de pratiques. Moi, je vais qualifier d'un peu contemporaine parce que ça fait pas très longtemps que j'en entends de plus en plus parler. Je ne sais pas du tout depuis quand ça remonte. Tu vas peut-être nous éclairer là-dessus. Parmi ceux qui nous écoutent là, peut-être, ils ont déjà entendu parler eux aussi d'agriculture syntropique. On va déjà commencer par une définition claire et nette de ce que c'est cette agriculture syntropique auquel toi aussi tu t'intéresses depuis peu.
Et alors, je tiens déjà, moi, pour les auditeurs et pour moi-même, à préciser que je ne suis pas un grand connaisseur. Ça fait partie des choses que je viens de découvrir. Ouais. Alors, j'en ai entendu parler pour la première fois il y a peut-être 2-3 ans, parce qu'on a un très bon pratiquant, là, ici, dans le coin. Mais voilà, depuis quelques semaines, quelques mois, là, je m'y intéresse beaucoup plus, j'étudie beaucoup plus. Alors, ça peut passer pour un nouveau concept encore qui vient d'arriver. À une époque, on a eu le bio qui est arrivé, après, on a eu la permaculture qui est arrivée. J'ai étudié beaucoup de ces nouvelles choses, hein. J'entends beaucoup parler de plein de nouvelles techniques, pratiques qui arrivent. Et là, j'avoue que sur l'agriculture syntropique, j'ai été mais vraiment séduit. Et du coup, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de tester, j'ai envie de transmettre un petit peu, d'en parler, parce que ça a l'air vraiment très intéressant, très productif.
Comment est-ce qu'on peut définir ça déjà de manière
on va essayer de
simple,
le définir un petit
avant
peu.
De rentrer un peu dans les petits détails que l'on connaît l'un l'autre.
L'idée, c'est de partir du constat que déjà l'énergie arrive sur la planète. Il n'y a qu'une forme d'énergie qui arrive sur la planète, c'est le soleil. Le soleil, grâce aux plantes et à la photosynthèse, produit de la matière vivante, la matière organique. Tout le vivant se nourrit à la base du végétal. Les carnivores se nourrissent d'herbivores qui, eux, se nourrissent de végétal. Donc, le végétal et, je dirais, donc la photosynthèse est à l'origine de toutes les formes de matière vivante sur la planète. Donc, l'idée, c'est, en partant de ce constat-là, d'avoir un jardin sur lequel on aura le plus de végétation, le plus de biomasse, le plus de feuillage possible. Et un autre nom de l'agriculture syntropique, c'est l'agroforesterie successionnelle, parce qu'on va se baser sur les successions végétales. C'est très compliqué à expliquer, même le bouquin que j'ai lu, j'ai dû le relire une deuxième fois pour finir de bien comprendre, parce qu'il y a plein de petits concepts à savoir. L'idée, c'est on part sur une zone qu'on va cultiver, sur laquelle on va tout semer, planter en même temps, ou en tout cas sur un laps de temps très très court, et beaucoup de végétaux vont pousser très très vite. Une fois que ça prend toute la place, on va tailler, le terme qui est le plus utilisé dans l'agriculture syntropique, c'est la perturbation. Donc on dit on va perturber, ça veut dire on va perturber certains végétaux qui prennent trop de place et qui font de l'ombre aux végétaux que nous on veut cultiver. Et donc on va séparer nos cultures en deux catégories. Les cultures que nous on veut pour nos productions et les cultures qu'on va mettre avec pour produire de la biomasse. Donc ces cultures à biomasse vont pousser, vont produire très très vite, et on va les tailler, et ça va produire de la matière organique qu'on va laisser au sol, et ça va se décomposer, ça va laisser de la place aux autres plantes qu'on va cultiver, ça va laisser rentrer la lumière, ça va relaisser du coup plus de ressources en eau, en matière nutritive dans le sol, et cette matière en se décomposant va apporter encore autre chose. Dans le temps qui suit, d'autres végétaux vont finir par pousser, nos productions vont pousser encore un peu plus, et d'autres végétaux en biomasse qui auront été plantés, semés dès le début, vont prendre la place qui aura été laissée libre. Et donc on va, par étapes comme ça, couper les plantes qu'on a mis là pour la biomasse, tailler ou garder juste intactes les plantes qu'on a mis pour nos productions, et ces cycles-là vont faire que c'est très productif. À chaque fois qu'on va faire cette perturbation, on va dynamiser les cultures qui restent en place. Vous avez dû voir, quand on taille un arbre, quand on coupe une plante, quand on tond une pelouse, la plante réagit à la taille. Et l'idée, c'est d'utiliser cette réaction en ayant ces plantes qu'on met pour la biomasse. Le fait de les tailler, ça va booster les plantes qui restent en place, ça va pousser encore plus. Vu que ça pousse encore plus, ça reprend la place. Une fois que ça reprend la place, on retaille, ça booste, on taille, ça booste, et ça pousse très très vite, et c'est très productif.
D'où le terme de successionnel, hein, qui est souvent utilisé.
D'où le terme de successionnel.
Voilà. Ouais.
L'idée, c'est de tout mettre en place pour que au fur et à mesure qu'on taille, au fur et à mesure des semaines et des mois sur la première année, mais au fur et à mesure des années, c'est différentes plantes à chaque fois qui vont prendre l'espace. Et dans ces plantes, il y aura des plantes qu'on veut garder pour nous, pour la production, et d'autres plantes qu'on va tailler année après année. Souvent, quand on fait un semis en agriculture syntropique, quand on fait un semis, une plantation sur un laps de temps très court, on sème tous les végétaux qui vont rester en place pour des années, des dizaines, voire parfois des centaines d'années.
Donc ça demande d'avoir déjà bien en tête un peu ce qu'on a envie de faire et pourquoi, donc beaucoup d'anticipation dès le départ.
C'est ça, c'est un casse-tête énorme. Là, je suis en train de commencer à faire mes plans, moi, pour qu'est-ce que je vais semer, planter cet automne et ce printemps sur mes zones pour avoir des cultures qui restent en place, ben, du coup, pour des années.
Alors, tu as parlé d'une personne dans le secteur qui s'y connaît bien, on va le citer, hein, c'est
ouais,
Steven, non,
Steven
qui
Werner,
à la Capelle
ouais.
Ségala.
Ouais,
il me semble d'ailleurs, il y a quelques années, il avait mis en place quelques stages, des personnes venaient de toute la France pour voir un peu comment se passait cette technique qu'il a d'ailleurs développée sur un terrain à la Capelle Ségala. On va lui passer un coup de fil prochainement, qu'il vienne expliquer un peu plus cette technique-là, qu'il va d'ailleurs apprendre maintenant dans le monde entier à pas mal de paysans.
Autant il fait un peu de formation, je sais pas en détail qu'est-ce qu'il fait le plus, mais je crois que ce qu'il fait le plus, c'est surtout accompagner des projets agricoles et un peu partout dans le monde. Il faut savoir que l'agriculture synthropique, ça a été, alors le terme et le concept a été vraiment détaillé, inventé par Ernst Goetsch, qui est un Suisse, je crois, d'origine, mais qui a développé ça au Brésil. Et ça se fait beaucoup sur des cultures de, on fait de la banane, on fait du cacao, du café, on fait beaucoup de ces cultures-là. En zone tempérée, c'est assez nouveau. Alors, du coup, on en a cité un, je peux citer un autre nom. Il y a Anaëlle Théry, et c'est elle qui vient d'écrire le premier bouquin sur l'agriculture synthropique en milieu tempéré en France, qui s'appelle Bienvenue en Synthropie, qu'elle a auto-édité il y a quelques semaines. Là, il est sorti. Et il est déjà en rupture de stock, tellement les gens ont envie de lire des choses là-dessus. Il va être réimprimé, il sera redisponible là, d'ici novembre. Et voilà, donc elle a beaucoup testé ça en France. Et c'est un des trucs qui me met un peu la puce à l'oreille, où je me dis, il y a plein de gens partout dans le monde qui utilisent vraiment ce concept pour produire. J'ai rencontré là récemment quelques personnes, et notamment un maraîcher qui a entendu parler de ça, il a testé. Et il était juste jardinier, il a testé ça, et c'était tellement intéressant qu'il s'est lancé, il s'est installé comme maraîcher, et il m'a dit, mais j'ai halluciné à quel point c'est hyper, hyper productif. C'est très technique, c'est complexe, il y a vraiment beaucoup de choses à réfléchir, mais quand c'est bien fait, c'est hyper, hyper productif.
Mais ça m'étonne un peu que ça te plaise, et je vais te taquiner, parce que lorsqu'on parle de permaculture, il y a plutôt cette notion d'un peu de fainéantise pratique, c'est-à-dire donner le maximum, on va dire, intellectuellement, mais... un minimum de manière, on va dire, manuelle pour que cela produise. Alors que là, lorsqu'on parle de synthropie, j'ai l'impression que, déjà intellectuellement, il faut être costaud, mais en plus qu'il faut être régulièrement, je me trompe peut-être, mais auprès de ces végétaux qu'il faut suivre, accompagner, perturber, ressemer, etc. Donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'actions, voire de manipulations qu'il faut mener là.
Alors je dirais pas, pour moi on est vraiment toujours dans ce concept de oui, c'est un truc de feignant, mais à condition d'être un gros cerveau, de vraiment bien réfléchir, d'être un gros intellectuel. C'est un truc de feignant, mais d'intellectuel. Je pense pas qu'il y ait beaucoup plus de travail que dans d'autres techniques pratiques, mais par contre il y a le bon geste à faire au bon moment. Mais par contre c'est une réflexion par rapport à la densité, par rapport aux espèces qu'on va planter, par rapport à comment on va les mélanger, dans quel ordre, dans quel sens on les met. Donc ça se réfléchit vraiment beaucoup. Et ensuite au niveau boulot, c'est la nature qui fait le boulot, on se base vraiment sur des principes naturels. La nature veut produire, la nature veut de la masse, veut produire vraiment en quantité. Par contre l'idée c'est de mettre les bonnes choses au bon endroit au bon moment, et de faire le bon geste, la bonne taille, tailler la bonne plante au bon moment, et la nature fait que c'est hyper productif derrière.
Avec ce que toutes les notions que tu as déjà accumulées par le passé, que ce soit en termes d'agriculture biologique ou encore de permaculture, quels sont les liens que toi tu ferais là avec les techniques et les principes de l'agriculture synthropique?
Alors, si je dois faire le lien par rapport à la permaculture, c'est drôle parce que il y a pas longtemps, dès que j'ai entendu parler de ça, il y a eu, alors ça se passait sur un webinaire, donc un truc en direct avec une émission en direct avec des gens qui posaient des questions. Et il y a eu cette question de, mais du coup, alors, est-ce qu'on arrête la permaculture et maintenant on fait de l'agriculture synthropique? Alors, non. La permaculture, c'est une boîte à outils. Et on va juste y rajouter la synthropie dans la boîte. C'est une philosophie globale, la permaculture, qui permet de créer, de mettre en place des systèmes avec une organisation.
Pas qu'agricole d'ailleurs.
Et pas que agricole, complètement. C'est pas que agricole, ça va dans plein de domaines. On a ce qu'on appelle la fleur de la permaculture, où chaque pétale de cette fleur, c'est un des domaines d'application de la permaculture. Et bien dans le pétale, même moi je me trompe, du côté production agricole, il va y avoir plein de techniques. Mais la permaculture englobe toutes ces techniques, et l'agriculture synthropique, c'est une de ces techniques. Il y a une grosse philosophie derrière, c'est un très gros outil, mais la permaculture, c'est une boîte à outils qui est encore plus grosse et qui va comprendre à l'intérieur, l'agriculture synthropique.
On aura l'occasion d'inviter que ce soit Anaël, hein, que tu as cité, ou encore Steven, par exemple, pour qu'on aille un peu plus en détail, parce que c'est, comme tu l'as dit, c'est des principes et pratiques que l'on découvre un peu. Hein. Ça fait quelques années qu'on en parle par-ci, par-là. On n'est pas pro, ni toi, ni moi, sur le sujet, mais comme ça, rapidement, comment appliquer ces techniques-là dans un jardin-forêt, pour ne pas dire potager ou verger?
L'agriculture synthropique. Oui. Alors, il y a plusieurs façons de l'appliquer, à savoir que normalement, comme je disais, c'est plutôt pour des cultures sur des longues durées. On va tout semer, planter dès le début pour des dizaines, voire centaines d'années. Par contre, on peut renouveler le cycle et faire juste la première année. Et par exemple, on va semer au printemps des maïs, des tournesols, des pommes de terre, des fèves, tout ça, ça va pousser dans un certain ordre. Les fèves, à la limite, vont pousser plus vite au début. Les maïs, les tournesols vont arriver derrière. Dès que les tournesols ou les maïs sont trop gros, font de l'ombre, font trop d'ombre, on va en tailler certains, on va en tailler un sur deux, un sur trois. On va faire rentrer de la lumière, ça va continuer à pousser. Pendant ce temps, les fèves auront fini de produire, on va les tailler, ça va produire de la biomasse, hein, on va les laisser au sol. Pendant ce temps, les pommes de terre, elles ont poussé. Les pommes de terre, on est assez nombreux à en cultiver, j'imagine, quand on fait du jardin, et on voit bien que pendant l'été, ça prend trop le soleil, ça finit par sécher de toute façon, mais quand il fait trop chaud et que c'est pas assez arrosé, ça sèche vite. Ben, si on a les tournesols qui coupent un peu le vent, qui font de l'ombre, elles vont produire un peu plus longtemps. Si à un moment, les tournesols prennent trop d'eau et font une concurrence trop forte par rapport à la lumière, l'eau et la lumière, les deux, eh ben, on va en tailler une partie. Et à chaque fois qu'on va les tailler, eh ben, ça va rebooster nos cultures à côté. Donc, on peut tout à fait appliquer ça sur des cycles courts. Il y a plein de mélanges qui sont possibles. Encore une fois, ça n'a pas été vraiment travaillé pour la zone tempérée, pour nos productions ici. Donc, il y a encore tout à découvrir là-dessus. Et vraiment, si vous avez l'occasion d'aller lire le bouquin d'Anaël Théry, elle a expérimenté plein de choses. Je pense que c'est une des personnes en France qui a le plus expérimenté ça. Mais même elle a dit, c'est chaque printemps qui arrive, c'est encore, vas-y, encore une nouvelle session de jeu. On va encore faire des nouveaux tests. On va encore expérimenter des nouvelles choses. Et tout est à découvrir avec nos cultures ici.
Eh bien, si en plus on tombe dans une période où on a un peu plus de temps pour lire, vraiment nourrir aussi son intellect, en tout cas pour imaginer peut-être des choses sur 2024, donc c'est le moment de se procurer ces différents bouquins-là, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire à son échelle. Mais tu sais quoi, la prochaine fois, on parlera aussi de quelqu'un d'autre qui a eu un peu ce côté visionnaire de prévoir des choses comme ça un peu sur le long terme. C'est un botaniste japonais, Miyawaki, dont on a déjà parlé sur CFM Radio dans le cadre du projet Sylvain, pour ceux qui s'en souviennent, c'était recréer des forêts primaires sur des zones comme ça dans le Tarn. Il y en a trois qui existent déjà, un projet qui est mené par une association tarnaise, hein, qui se retrouve là en automne. Ils sont plusieurs bénévoles qui plantent des arbres pour recréer de la biodiversité dans notre territoire. Et avec Rémi Kudik, on se propose, hein, pour la prochaine émission, d'en savoir un peu plus, hein, sur la méthode de Miyawaki, donc ce botaniste japonais dont on vous parle dans Plantes et Histoires de Plantes la semaine prochaine sur CFM Radio.
Encore un nouveau concept à découvrir.
C'est conceptuel. Merci beaucoup Rémi, à la semaine prochaine.
Avec plaisir, à bientôt.